Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, durant la première partie de nos émissions, nous allons continuer notre série destinée à répondre aux questions de nos auditeurs sur la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Jean-Marc sera de retour parmi nous pour nous expliquer son rôle au sein de l'Église.
Jean-Marc, bonjour. Nous venons d'annoncer le sujet de notre discussion, le rôle de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Comment allez-vous aborder ce thème?
Dans sa première épître, adressée à l'Église de Corinthe, l'apôtre Paul compare l'Église au corps humain. Or, si le corps doit grandir et se développer, il en est de même pour l'Église. Si nous devons bien nous nourrir et prendre soin de notre santé pour rester en forme, l'Église éprouve, elle aussi, ce même besoin. Un corps est composé de membres et d'organes, chacun contribuant au bon fonctionnement de l'ensemble. Chaque membre, chaque organe travaille en harmonie pour que l'être humain puisse réaliser ce qu'il a décidé d'accomplir. De même, l'Église est constituée de nombreuses personnes, de membres. Chaque personne, chaque croyant a sa place et un rôle à jouer en son sein. Chaque personne doit travailler en harmonie afin de contribuer au bon fonctionnement de l'Église et promouvoir la volonté de son chef, à savoir Jésus-Christ.
Cette image du corps est très parlante, mais vous n'avez pas encore parlé de l'Esprit.
Selon l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu accorde aux chrétiens des dons ou des aptitudes diverses, permettant à chacun de trouver sa place dans l'Église et de la servir. Écoutons un extrait de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 7.
Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun.
Nous abordons alors la question des dons de l'Esprit qui, malheureusement, suscite beaucoup de polémiques parmi les chrétiens.
Vous avez raison, Yann. C'est très dommageable. Aussi, je ne me prononcerai pas sur les questions les plus controversées.
Mais que voulez-vous souligner à ce sujet alors?
Je voudrais d'abord souligner la souveraineté de l'Esprit, car c'est l'Esprit qui accorde et distribue les dons et il le fait selon sa volonté, selon ses choix. De plus, il s'agit là de dons et non de récompenses, car nous recevons ces dons par grâce. Ils ne sont pas le fruit d'un dû. Ainsi, notre approche concernant les dons de l'Esprit doit être humble. Nous ne sommes pas non plus en droit de réclamer un don particulier. Nous ne pouvons rien exiger du Saint-Esprit. Notre rôle est de découvrir la façon dont il peut nous rendre capables de servir l'Église. Nous devons donc accepter la place qu'il nous confie avec humilité et joie, tout en servant l'Église fidèlement. Ainsi, ne nous vantons pas si l'Esprit a choisi de nous accorder un don qui semble, aux yeux de certains, nous donner de l'importance au sein de l'Église. Ne nous enorgueillissons pas non plus du ministère que l'Esprit nous confie. De même, nous ne devons pas jalouser ceux qui disposent de dons ou de ministères que nous aurions aimé recevoir. Nous devons nous soumettre à la volonté de l'Esprit et lui faire confiance.
Il est également important de rappeler que l'Esprit accorde ses dons pour le bien commun de l'Église.
Oui, vous avez raison. L'Esprit accorde ses dons aux différents membres de l'Église afin que l'ensemble du corps puisse en profiter et non une personne en particulier. Si vous disposez donc d'un don, c'est pour servir l'Église. C'est pour servir vos frères, vos sœurs, les aider à grandir dans la foi les aider sur les plans matériels et émotionnels, relationnels et spirituels. L'esprit n'accorde pas de dons pour que nous en tirions un bénéfice personnel, même si malheureusement certains peuvent profiter de leurs dons afin de soutirer de l'argent, accroître leur réputation, exercer un pouvoir ou se glorifier. Non, notre objectif, notre seul désir quant à l'exercice des dons de l'esprit doit être de servir l'Église. Notre soif doit être le bien de tous.
Vous exprimez ainsi les pensées de l'apôtre Paul.
Tout à fait, Yann. L'enseignement de l'apôtre sur les dons de l'esprit est suivi d'un discours sur l'amour que tout véritable chrétien devrait exprimer. Paul affirme que les dons de l'esprit jouent un rôle important dans l'Église, mais l'amour demeure la voie par excellence. Il déclare notamment que si l'on exerce un don sans faire preuve d'un véritable amour, il ne sert plus à rien.
Nous passons tout de suite à notre série de méditations bibliques. Hélène va lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 31 à 33. Ensuite, Robin nous fera part de ses réflexions sur ce passage.
Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ? » « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus.
La dernière fois, Robert nous a incité à nous préoccuper de la question « Suis-je juste aux yeux de Dieu ?» Ensuite, il nous a amenés à la conclusion suivante. À cause du péché qui domine nos vies, nous ne parvenons pas à être justes aux yeux de Dieu. De plus, nous sommes malheureusement impuissants pour remédier à un tel état. Nous ne pouvons rien entreprendre pour le changer. Toutefois, un espoir demeure. Dieu lui-même a accompli une œuvre pour nous sauver. Je cède tout de suite la parole à Robin qui va nous en dire davantage.
Merci Yann pour ce rappel. Je voudrais commencer avec une courte illustration. Imaginez-vous dans la situation d'un homme dont le travail est salissant. Peut-être passe-t-il ses journées dans les champs à travailler la terre par temps de pluie. Peut-être s'agit-il d'un mécanicien qui manipule des produits et outils tachés de graisse pour réparer les voitures. Il est 2 heures de l'après-midi. Et voici que, chose inattendue, quelqu'un lui apporte une lettre dans laquelle il trouve une invitation. En fait, cet homme est invité au festin organisé à l'occasion d'un mariage en l'honneur d'un personnage aisé et influent vivant dans sa ville. L'homme réfléchit intensément. Il sait que dans sa ville, il ne peut trouver un beau costume et, à vrai dire, étant de conditions pauvres, il ne dispose même pas de vêtements de rechange. Comment pourrait-il alors oser se présenter à ce festin luxueux, revêtu d'habits de travail tout tachés? Ce serait inconcevable. Jamais il ne pourra franchir le seuil de la salle de réception vêtu ainsi. Il serait aussitôt exclu des réjouissances. Abattu, notre homme rentre chez lui lorsqu'il trouve devant sa porte de sa maison un colis. Il l'ouvre et à son grand étonnement, il y découvre un magnifique costume, un costume lui allant parfaitement, un costume qui lui ouvrira toutes les portes pour participer à ce festin, un costume le rendant digne d'être en présence de cette illustre compagnie. Mais d'où vient ce colis? En fait, c'est l'hôte de la fête qui le lui a envoyé. Sachant que cet homme ne pourrait jamais participer à ce festin sans vêtements appropriés, qu'il ne pourrait jamais se régaler de toutes les bonnes choses préparées en cette occasion, il lui a offert ce beau costume.
Merci Robert pour cette belle parabole illustrant ce que l'Éternel a accompli pour nous. Mais expliquez-nous les leçons spirituelles contenues dans cette illustration.
Oui, les vêtements sales de cet homme symbolisent nos fautes, nos péchés. Le fait qu'il ne puisse assister au festin du mariage dépeint la triste réalité que nous ne sommes pas justes aux yeux de Dieu et que nous ne pouvons pas entrer dans sa présence ni jouir de ses bienfaits. Toutefois, comme l'hôte de la fête a pourvu généreusement aux besoins de notre homme, l'Éternel, dans sa grâce, a pourvu à nos besoins. Il nous permet de le connaître. Il nous accorde de marcher avec lui aujourd'hui. Il nous offre l'espérance de vivre éternellement avec lui.
Robert, pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont l'Éternel a réglé le problème de notre péché?
La Bible utilise de temps à autre l'illustration contenue dans la parabole que nous avons racontée. L'Éternel le déclare, il a le pouvoir d'enlever nos vêtements sales, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'ôter nos péchés. Pour cela, il nous revêt du vêtement de la justice. Car son Fils, Jésus-Christ, sur la croix, a porté la peine de nos péchés. Il a été puni à cause de nos fautes. Il a subi le châtiment de notre injustice, de notre immoralité, à notre place. Toutefois, Jésus n'est pas seulement mort à notre place. Il a aussi vécu une vie juste à notre place. Car il n'a pas commis de faute et il a réalisé tout ce que l'Éternel attendait de lui. Ainsi, quand nous nous approchons de Jésus par la foi, Dieu ne voit plus notre injustice. Non, au contraire, il voit en nous la justice de Jésus-Christ.
Donc, si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous pouvons répondre oui à la question « Suis-je juste aux yeux de Dieu ?»
C'est exact, Yann. Et si nous pouvons répondre oui, des bénédictions merveilleuses s'ouvrent à nous. Car l'Éternel devient notre Père céleste, et nous pouvons jouir de sa bienveillance, de son amour fidèle. Nous possédons dès lors l'espérance de la vie éternelle, et infiniment plus encore. Pour conclure, il devient alors vital de savoir si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, en son sacrifice sur la croix, car notre justice aux yeux de Dieu dépend de notre réponse à cette question. Nous devons nous préoccuper de comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, et de nous examiner pour saisir, par la foi, le salut de Dieu.
Merci Robert pour ce retour au cœur du message de l'Évangile. Nous espérons que nombreux sont nos auditeurs qui connaissent ce merveilleux cadeau, qui a le pouvoir de nous rendre justes aux yeux de Dieu.
Nous poursuivrons nos deux séries la prochaine fois. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.